Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le catéchisme du Concile de Trente invite les pasteurs, en cette fête de Noël, à bien expliquer le mystère dont nous venons d'entendre le récit par l'évangéliste Saint-Luc. C'est qu'il nous faut regarder ces événements à la lumière de la foi et non pas d'une manière tout extérieure. Ce nouveau-né pour qui nous avons fait une petite aubade tout à l'heure devant la crèche, il est le Fils unique de Dieu, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, comme le Credo nous le fait réciter. Ce sont donc trois mystères de foi que nous célébrons en cette fête de Noël. Jésus est le Fils unique de Dieu, engendré du Père de toute éternité. Ce sont d'ailleurs les premiers mots de l'introït de cette messe de minuit. Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego odie genuite. C'est l'enfant de la crèche ici qui nous parle et qui dit « Le Seigneur, c'est-à-dire mon Père du ciel, le Seigneur m'a dit « Tu es mon Fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui ». Cet « aujourd'hui », c'est d'abord l'aujourd'hui de l'éternité, où le Père engendre le Fils dans les splendeurs du ciel, comme nous l'avons chanté dans le graduel. Devant la crèche, on peut ouvrir son évangile et réciter le prologue de saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ce sera d'ailleurs l'évangile de la messe de Noël, du jour de Noël. Étant engendré de toute éternité par le Père, notre Seigneur est Dieu, consubstantiel au Père, possédant la même puissance, la même sagesse que son Père. Et étant né dans le temps de la Vierge Marie, il est vrai homme que la Vierge Marie doit envelopper de l'ange dans le froid de la nuit. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. L'aujourd'hui de l'introïte est donc aussi l'aujourd'hui du premier Noël, où le Verbe incarné s'est montré aux hommes pour la première fois. Mais sa personne est unique, c'est la seconde personne de la Sainte Trinité qui réunit en elle la nature divine et la nature humaine. Mais il est une autre vérité de foi très importante à rappeler en cette fête de Noël. Fils unique de Dieu, en prenant pour nous un corps humain dans le sein de la Vierge Marie, Jésus n'a pas été conçu comme les autres hommes, mais par une intervention surnaturelle, par une action du Saint-Esprit. C'est ce que l'ange avait annoncé à saint Joseph, lorsque, voyant Notre-Dame enceinte, il avait résolu de la renvoyer secrètement. « Ce qui est né en elle, lui dit-il, vient du Saint-Esprit. » En disant cela, il ne faut pas d'ailleurs oublier que tout ce qui se produit à l'extérieur de Dieu est commun aux trois personnes divines. L'une n'agit point à l'extérieur sans l'autre. Donc la conception de Jésus dans le sein de Notre-Dame est l'œuvre de la Sainte Trinité tout entière. Alors pourquoi parle-t-on plutôt du Saint-Esprit ? Eh bien, parce que dans la Sainte Trinité, le Saint-Esprit est l'amour. Il est l'amour substantiel, le fruit de l'amour du Père pour le Fils et de l'amour du Fils pour le Père. Et l'incarnation, le fait que la seconde personne de la Sainte Trinité ait pris un corps dans le sein de Notre-Dame, c'est bien la preuve de l'amour immense de Dieu pour nous. Nous avions péché, nous nous étions révoltés contre lui. Il aurait pu nous anéantir, nous l'aurions mérité. Eh bien non. Dans la nuit de Noël, il apparaît aux hommes sous la forme d'un petit nourrisson, pour que nous n'ayons pas peur d'approcher de lui. Car il n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits, si cela existe. C'est le péché qui l'a attiré sur terre. S'il a pris un corps humain, c'est pour pouvoir offrir ce corps en sacrifice sur la croix, afin de réparer nos péchés à notre place. Seigneur, qui vous a fait si petit ? S'éclame Saint Bernard dans la nuit de Noël. C'est l'amour, Bernard, lui répond Jésus. Et c'est pourquoi, dans notre manière humaine de dire les choses, on attribue l'incarnation plus spécialement au Saint-Esprit, qui dans la Sainte Trinité est l'amour. Jésus, bien sûr, étant pleinement homme, n'avait pas seulement un corps. S'il tint sa chair de Notre-Dame, la Sainte Trinité créa une âme pour faire vivre ce corps. Une âme qui, dès le premier instant de sa conception, reçut en plénitude la grâce sanctifiante, avec tout son cortège de vertus et de dons, pour devenir pour nous la source de toutes les grâces. Une âme qui eut la vision béatifique dès le premier instant. À la crèche, comme sur la croix, l'âme de Jésus voyait son Père face à face et en était inondé de bonheur. C'est le 25 mars, à la fête de l'Annonciation, que nous célébrons la conception de notre Seigneur dans le sein de la Vierge Marie. À l'instant même où elle dit son fiat à la parole de l'ange, au plan de Dieu sur elle et sur le monde. À Noël, nous fêtons sa naissance. Conçu par le Saint-Esprit, par la Trinité tout entière, notre Seigneur est né de la Vierge Marie. Et il nous faut expliquer aussi comment. Puisque notre Seigneur avait été conçu du Saint-Esprit et non de Saint-Joseph, la virginité de Notre-Dame était demeurée intacte. Mais elle aurait pu la perdre lors de l'enfantement. Cependant, la foi nous enseigne que Jésus est sorti miraculeusement du sein de Marie. Comme au matin de Pâques, il sortira du tombeau sans l'ouvrir, et dans la même journée apparaîtra subitement à ses apôtres au Cénacle, les portes étant fermées. Ainsi Notre-Dame fut mère tout en restant vierge. C'est un dogme de foi qui a été proclamé au Concile de Latran en 649. Et comme son Fils est Dieu, elle est mère de Dieu. L'Église l'a proclamé au Concile d'Éphèse en 431. Et ensuite, Notre-Dame, bien sûr, est demeurée vierge pendant toute sa vie terrestre. Les pères de l'Église, plusieurs conciles, l'ont proclamée solennellement. Le contraire, d'ailleurs, eût été inconcevable, et le laisser supposer, ce serait même blasphématoire. Comme elle est demeurée vierge avant, pendant et après l'enfantement, eh bien, on parle de la virginité perpétuelle de Notre-Dame. Monseigneur Lefebvre remarquait d'ailleurs que la virginité est tellement attachée à la personne de Notre-Dame que dans le langage commun, c'est par là qu'on la désigne. Tout le monde parle de la Sainte Vierge ou de la Vierge Marie. Et quand on dit cela, on ne pense qu'à elle. Il est temps maintenant, pour ne pas trop prolonger, de donner la conséquence de ce mystère de Noël pour notre vie chrétienne. Si Jésus a pris notre nature humaine dans le sein de la Vierge Marie, eh bien c'est pour nous faire participer à sa divinité, si du moins nous acceptons de le recevoir. C'est ce que nous lisons dans le prologue de Saint Jean. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et l'Église le chantera au jour octave de Noël. Ô admirabile commercium, ô admirable échange, le Créateur du genre humain, prenant un corps et une âme, consent à naître d'une vierge, et le voici homme sans père ici-bas, qui nous fait part de sa divinité. C'est une antienne des vêpres de la circoncision. Le grand don de Noël, c'est donc la grâce sanctifiante qui nous guérit du péché, qui élève notre nature au-dessus de la nature humaine, afin que nous marchions comme des créatures nouvelles, avec un esprit nouveau, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô homme, nous disait saint Léon le Grand dans les matines tout à l'heure, toi qui appars désormais à la nature divine, ne retombe pas dans ta bassesse de jadis par une conduite qui te fasse déchoir. Souviens-toi de quel corps tu es membre et quelle en est la tête, notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi que tu as été arraché à la puissance des ténèbres pour prendre place dans le royaume de Dieu et sa lumière. Chers fidèles, dans les temps que nous vivons, la fête de Noël est chargée d'espérance et vient nous redonner courage. Ne regardons pas les événements actuels d'une manière purement humaine, indigne de chrétiens. Regardons-les à la lumière de la foi. Celui dont nous fêtons la naissance cette nuit est le Sauveur. Il est Dieu, infiniment puissant. C'est lui le maître du monde. Ses ennemis n'ont de pouvoir que celui qu'il leur laisse provisoirement pour punir le monde de ses péchés. Punition qui est devenue le seul moyen de sauver les âmes égarées de notre époque. Parce que c'est souvent dans l'épreuve que les hommes recommencent à penser à Dieu. Quant à nous qui croyons en lui et qui sommes alors devenus enfants de Dieu, notre Seigneur vient en cette nuit de Noël, les mains chargées de toutes les grâces dont nous avons besoin dans les temps qui viennent. Il nous guidera, il nous fortifiera, il nous portera, comme il le fait déjà depuis longtemps. Mais quelques conseils pratiques nous sont nécessaires. Écoutons ceux que Mgr Lefebvre écrivait aux fidèles de Marseille, au Noël qui précédait sa mort, pour les aider à persévérer dans les difficultés des temps. Ces recommandations sont peut-être encore plus actuelles qu'à l'époque. Après avoir rappelé le grand privilège qui est le nôtre d'avoir, par la grâce de Dieu, gardé la vraie foi et d'être resté fidèle à la tradition de l'Église, Mgr Lefebvre ajoutait « Les circonstances actuelles au milieu desquelles nous vivons, loin de nous décourager, doivent nous inciter à nous unir à notre Seigneur et à mieux l'imiter, à partager ses souffrances en acceptant les épreuves qui nous détachent du monde. Oui, nous sommes appelés, en raison de l'apostasie générale, à une plus grande perfection. Saisissons cette heureuse occasion pour élever nos cœurs vers Dieu. Pour cela, utilisons tous les moyens de sanctification institués par notre Seigneur et transmis par la tradition de l'Église. Ce sont là les vraies sources de la sainteté qui nous communiquent les dons de l'Esprit Saint pour nous conduire en vrais chrétiens et en vrais catholiques. La deuxième obligation est celle d'être des missionnaires, animés par le désir de communiquer à d'autres personnes le privilège que nous donne, le privilège que Dieu nous donne d'avoir gardé la foi. C'est un devoir d'utiliser les moyens traditionnels pour cela que l'Église a toujours conseillé afin d'amener les âmes à Jésus-Christ. Par la prière d'abord, et en particulier le rosaire, si recommandé par la Vierge elle-même. Par l'assistance à la Sainte Messe traditionnelle, car le sacrifice de notre Seigneur est le moyen que Dieu a choisi pour sauver les âmes. Par l'exemple des vertus chrétiennes, l'humilité, la douceur, la chasteté, la bonté qui attirent les âmes. par l'apostolat des bonnes lectures, souvent plus efficaces que des conversations, et en faisant connaître les retraites spirituelles. En remplissant cette double obligation de sanctification personnelle et de zèle missionnaire, vous acquerrez la paix de vos âmes au milieu des vicissitudes des temps actuels. Que ce soit notre programme, avec l'aide de Notre-Dame, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.